Bienvenue sur Radio Méga. Cette fois, comme il n'en est pas coutume, nous allons vous proposer un sujet léger et aérien. Attention que je ne vous mette pas un vent dans le nez.
Bonjour, Rémi-même.
Bonjour, Cécile. Bonjour, Matt.
Salut.
Alors, cette fois, je ne vous ferai pas d'anamnèse passéiste, mais plutôt un petit rappel à l'ordre d'informations réglementaires sur le vol au-dessus de nos têtes. Car effectivement, cette semaine, nous allons vous parler de drones.
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Y a plein de choses à dire, mais tout de suite, nous allons passer à l'actualité.
Zalactu, qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Une mauvaise nouvelle, c'est le décès de Isao Takahata. Alors son nom parlera pas autant de gens que celui de Miyazaki, mais c'est quand même le réalisateur, entre autres, du Tombeau des Lucioles.
Oui, un merveilleux film d'animation qui nous a tous...
Il est horrible, c'est traumatisant.
Non mais moi je l'adore ce film. Bref.
D'ailleurs, tu sens le traumatisme du peuple japonais quand tu vois le film, c'est horrible. Oh. C'est tellement réel.
Ouais.
Ceux qui l'ont pas vu, préparez 3 boîtes de mouchoirs minimum, si vous connaissez pas.
Voilà, mais,
et puis sortez aussi vos boîtes de mouchoirs parce que
No Life n'est plus. No Life est décédé. La chaîne de tous les geeks comme moi.
Ouais.
Pleure la chaîne la plus sympathique qui était disponible depuis 11 ans déjà. 11 ans que Sébastien Ruchet et son pote nous faisaient des émissions magnifiques. Une chaîne qui était dédiée à la culture japonaise, aux jeux vidéo, à tout ce qui nous touchait, qui a fait...
À tout ce qu'on trouvait pas ailleurs sur les autres chaînes, en fait.
Aussi, bah oui. Qui nous a fait connaître des tas de gens. Je repense à Monsieur Poulpe. Ou bien ouais. David Mourier, qui a fait beaucoup de choses à No Life, qui était là dès le départ et qui était aussi triste du départ. Bref, la chaîne n'est plus et repose en paix. Il y a la possibilité de voir, il y a une association des utilisateurs de No Life qui était disponible. Vous pouvez trouver leur site internet sur notre blog AAA.fr.
On mettra des liens, effectivement. Normalement, ils diffusent encore quelques jours en mode zombie. Alors, ils ont fait de la com là-dessus. Mais ouais, c'est triste quand même. J'ai vu la fin.
Mais on espère quand même qu'ils vont... On aura l'occasion de récupérer le maximum de contenu qui a été diffusé pendant ces 11 années afin de les archiver quand même, parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes.
Je pense vraiment qu'ils
ont
des archives.
Oui, j'espère qu'ils vont essayer de faire continuer Noco au moins un certain temps.
Noco pourrait aider à justement soutenir ce genre d'archivage. Hein, après.
Et normalement, en tant que chaîne audiovisuelle, ça a été déposé à l'INA aussi, théoriquement. Donc ça devrait aussi être disponible à l'INA. Peut-être pas tout de suite, mais probablement dans le futur. Et puis, alors, il y a l'émission radiophonique CPU, Carré Petit Utile, qui avait interviewé l'an dernier Cyril Lambin, leur directeur technique. Et on vous invite aussi à aller écouter cette émission, amis.
Next Impact vient de lancer et réussir déjà son crowdfunding.
Oui. Avec des paliers bonus très intéressants. Financement de KimTrack, c'est une application pour... regardez qui vous traque, un e-book de vulgarisation sur la vie privée et le chiffrement, donc plein de choses. Donc ils ont déjà atteint un super palier, mais n'hésitez pas à donner encore.
Oh, panne chez Microsoft Office 365.
Oui, la semaine dernière, les services Outlook, Skype et OneDrive étaient indisponibles. L'occasion de rappeler que le cloud, même quand il n'est pas en panne, ça n'existe pas, c'est juste l'ordinateur d'un autre.
Le Conseil constitutionnel restreint le droit au chiffrement.
Dans sa décision du 30 mars 2018, relative à l'article 434-15-2 du Code pénal, le Conseil constitutionnel a refusé de protéger le droit pour une personne suspectée, en l'espèce un soupçonné revendeur de drogue, de ne pas révéler ses clés de chiffrement. Alors que de nombreux acteurs du droit et le gouvernement lui-même s'attendaient à une décision ménageant le droit à ne pas s'auto-incriminer, c'est-à-dire le fait de ne pas être contraint de s'accuser soi-même en livrant son mot de passe, le Conseil rend une décision très décevante, et la Quadrature du Net, qui était intervenue dans cette affaire, s'inquiète de cette décision qui risque d'affaiblir durablement le droit au chiffrement.
Waouh, Kant va faire un concurrent à OpenStreetMap ? J'y crois pas.
Oui, alors enfin plutôt à Google Maps. Mais en se basant sur OSM, justement. Oui, pour une fois qu'on évite de réinventer la roue. Parce que c'est vrai que ouais, sur le moment, j'ai lu ça, j'ai pris un peu peur. Mais apparemment, ils vont utiliser plein de briques d'OpenStreetMap et reverser aussi leur contribution. Donc, enfin, des gens qui font les trucs correctement. Et c'est vrai que OSM a un aspect assez technique pour certains. C'est vrai que quand on va sur le site d'OpenStreetMap, c'est très austère et c'est pas fait pour être utilisable par tout le monde. C'est fait pour juste être une vitrine technique pour voir ce qu'on peut faire avec, mais pas pour être un remplacement direct de Google Maps. Et là, c'est bien qu'il y ait un produit fini qui l'utilise, justement.
Bien, tout de suite, nous faisons une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour parler de notre sujet qui me fait tout drone. Bah dis donc, moi j'étais reboostée parce que d'un coup j'étais en train de m'endormir et grâce à Sydney avec Ultraside puis l'Hyperspace, voilà de quoi vous rebooster un petit peu de chiptune, ça fait toujours du bien. Nous allons effectivement vous parler de notre sujet du jour, donc ça me fait tout drone.
Ouais, ça te fait tout drone à toi?
Eh bah oui, parce que comme nous restons aussi quand même de grands enfants et pas dépressifs à en avoir le bourdon, je vous offre aujourd'hui la possibilité de vous faire lever les yeux au ciel et d'atteindre les nuages. Attendez-vous à ce que nous vous envoyons donc en l'air avec notre sujet du jour. Et oui, comme vous pouvez le deviner, cette fois, ça ne vole pas bien plus haut que d'habitude, mais je vous laisse imaginer un petit peu, j'ai fait pas mal de recherches. Mais bon, il faut que j'arrête de faire des jeux de mots pourris pour enfin vous présenter ces magnifiques objets qui volent à quatre hélices. Je veux bien évidemment parler des drones. Alors, est-ce que tu as déjà piloté un drone, toi?
J'ai tenté une fois.
D'accord. Et toi?
J'ai essayé avec les tout petits chez toi, là, avec Luc et tout, mais...
Voilà, c'était ça, c'était la même chose. C'était pas vraiment des drones, mais quand tu vois que déjà avec des petits appareils miniatures avec une seule hélice, t'es incapable de voler droit et tu finis automatiquement le truc planté en haut de l'armoire.
Avec nous,
truc à quatre hélices, tu dis que ça sera pas mieux.
En fait, avec nous, c'est plutôt des brosses à cheveux. Et ça finit sur la tête de quelqu'un, de toute façon. Donc,
ou alors, ça coupe des plantes aussi, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien.
Alors, historiquement parlant, les drones, finalement, c'est très vieux, puisque contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est très ancien, puisque les premiers prototypes datent du début du siècle dernier. Donc, le drone est un aéronef télécommandé, c'est-à-dire sans pilote à bord. Il embarque une charge utile qui lui permet de réaliser des missions diverses et variées, donc surveillance, renseignement, cartographie, transport, vidéo, etc. Donc la conceptualisation du drone remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Aux États-Unis, il y a eu des projets qui ont été développés, comme Air Spirit. Et en France, Georges Clemenceau, alors président de la commission sénatoriale de l'armée, lance un projet d'avion sans pilote. Et donc, en 1920, il fait réaliser un avion qui arrivera à être commandé sans avoir de pilote à l'intérieur. Donc voilà, c'était les premiers essais des drones. Et effectivement, la dénomination de drone, d'où ça vient ? Eh bien, tout simplement, ça faisait un bruit assez sourd. Et voilà. Et en fait, en anglais, ça fait un peu comme le bruit que feraient les faux bourdons. Et c'est d'où là vient effectivement le bruit, le vol bruyant et lent et paresseux. Donc effectivement, le drone avait trouvé son nom grâce à ce bruit. Uh-huh. Et le premier drone français a été conçu et expérimenté dès 1923 à Étampes par l'ingénieur Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Toutefois, l'armée française n'y voyait pas encore d'intérêt militaire. Et dans le domaine civil, l'apparition des drones de type Parrotte, je ne sais pas si ça vous dit, ça vous parle quelque chose, ce nom-là ?
Un parrotte, pour moi, c'est l'équivalent du perroquet. Au-delà de ça, je ne vois pas le rapport avec un drone.
Eh bien, moi, dans les années 2000, déjà, ils ont vraiment lancé un intérêt pour le grand public, car il devenait enfin possible et accessible financièrement de pouvoir piloter un drone à travers son téléphone.
Ça reste pas donné, ceux de cette marque, quand même. Hein.
C'est sûr. Néanmoins, ça a commencé à démocratiser un petit peu le drone en termes d'usage civil. Alors effectivement, le drone, c'est un appareil qui vole et qui est régi par des règles qui ont été déterminées par la Direction Générale de l'Aviation Civile.
En France en tout cas.
Et oui, en France en tout cas, puisque effectivement, je vais vous parler plus de ce qui nous concerne nous en France et pas forcément ce qu'il existe dans les autres pays, parce qu'effectivement, chaque pays a sa réglementation. Effectivement, le risque de chute, de collision avec des personnes ou des véhicules, voire la possibilité d'une utilisation à des fins terroristes, sont tout à fait réels. La réglementation a donc pour objet d'accompagner ce développement en fixant un cadre réglementaire qui permette à la filière de se développer en toute sécurité. Donc il existe une carte pour télépilote délivrée par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, élaboré avec le concours de l'IGN. Donc effectivement, il existe une carte interactive qui permet de savoir où est-ce que vos drones de loisirs peuvent circuler. Parce qu'effectivement, les drones, ça représente effectivement le danger de chute. On peut se prendre un drone dans la gueule, hein, pour être, tout simplement être poli. Mais aussi, on peut perturber l'aviation, puisque ça peut voler très très haut et...
Non, puis t'as aussi la protection de sites sécurisés. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une vraie psychose en France sur des drones qui survolaient des centrales nucléaires.
Oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a une législation qui a été proposée selon la catégorie de drones, parce que effectivement, c'est assez complexe. Je vous laisserai les liens sur notre blog sur www.fr. Je ne vais pas faire le détail de toutes les règles qui ont été appliquées depuis un certain temps. Mais effectivement, il y a des drones qui sont assez légers, qui font moins de 500 grammes, mais qui peuvent aussi voler jusqu'à 130 km/h. Donc, c'est assez impressionnant comme petite bête. Est-ce que vous imaginez ?
J'avais vu une vidéo... c'était à Dubaï, forcément, qu'ils organisaient ça avec des circuits luminescents, enfin éclairés toutes les couleurs avec des couleurs vives, et c'était des courses de drones avec des caméras embarquées, et les mecs jouaient à ça comme nous on jouait à Wipeout.
Non, mais il y a des championnats. L'autre jour, il y a eu un championnat de drones qui est passé sur France 4.
Ouais.
Et c'était assez ridicule d'ailleurs, mais bon. J'ai pas regardé bien longtemps.
Alors effectivement, tu as les drones qui font à peu près 500 grammes et qui effectivement seront dédiés à de la course, presque de la course automobile, un peu comme des pilotes. Mais imagine-toi que tu es un peu comme dans un jeu vidéo, parce que mine de rien, les mecs
sont
avec
des lunettes. Sauf que si tu te crashes, ton appareil, tu vas te le chercher parce que tu t'es vraiment crashé.
Oui.
Alors effectivement, les drones que tu vas utiliser dehors plus à l'extérieur, il faut effectivement qu'ils aient... qui soit identifié par une puce RFID ou par un GPS. Il faut qu'aussi il ait un dispositif sonore qui permette de le signaler en cas de perte de contrôle. Et aussi, il y a plein de règles sous peine, effectivement, de se retrouver avec des peines, par exemple, de 6 mois, avec une amende de 15 000 euros pour un survol ou de maladresse ou de négligence. Et on peut avoir aussi des peines aggravées à 1 an, voire 45 000 euros d'amende en cas de survol dans une zone interdite, avec une possibilité d'avoir son aéronef confisqué.
Aéronef.
Aéronef.
Ça se dit
aéro.
Aéro, ça va être dans l'air.
Oui.
Oui.
Oui, c'est ça.
Aéroport de Nice.
Oui. Alors, Nice, j'étais à côté. Hein. Tout à l'heure, j'étais à le choix entre Aix et Nice, et puis j'ai pas choisi Nice. Alors,
c'est
je
bien,
suis revenue à la médian. Donc, on se souvient tous de Thomas, qui avait survolé sa ville de Nancy.
Nancy, ouais.
Et qui avait effectivement eu des déboires judiciaires parce que effectivement à son jeune âge de 18 ans, il avait monté sa propre boîte pour faire des films et puis un concurrent lui a dit ah
c'est illégal,
c'est illégal. Donc en fait il y a les vrais et les faux drones parce qu'effectivement vous allez vous imaginer que quand vous entendez le mot drone, ça va effectivement s'appliquer à toutes les choses qui volent et qui ont 4 hélices. Alors que en fait, quand tu regardes de près, il faut distinguer qu'il existe des quadricoptères, comme j'ai à ma maison, et qui sont disponibles chez les marchands de jouets et qui sont dépourvus de capteurs GPS ou de position. Et ils sont pourvus simplement d'un stabilisateur leur permettant de rester stable. En gros, c'est l'utilisateur qui doit lui-même doser la puissance et la direction à l'aide d'une télécommande. Et on appelle ça effectivement un quadricoptère. Et vous avez le vrai drone qui dispose de capteurs lui permettant de maintenir une altitude ou une position géographique, quel que soit son environnement. Ainsi, si le vent pousse le drone, celui-ci sera autonome pour choisir la force qu'il devra appliquer pour maintenir sa situation programmée.
Et suivre une trajectoire aussi, carrément.
Et suivre donc une trajectoire qui sera programmée selon un parcours défini et qui pourra réagir selon les obstacles qu'il va rencontrer. Tout dépend effectivement de l'autonomie du drone dans ces cas-là. Alors effectivement, des applications pour le drone, vous en avez des milliards. Donc dans le domaine civil, par exemple, effectivement, on va retenir l'utilisation pour faire des films. Il y a beaucoup de drones maintenant qui sont utilisés dans le cinéma.
Ouais.
Ils sont utilisés aussi maintenant pour suivre le Tour de France.
Ouais, c'est moins cher que l'hélicoptère, ça fait moins de bruit. C'est...
Et puis en Chine aussi, il y a les drones taxis qui ont fait leur premier transport depuis cette année. Et oui. Les drones aussi sont de magnifiques jouets, effectivement, comme tu disais, ils sont utilisés pour faire des compétitions internationales de courses qui peuvent se dérouler aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, tu as les applications, effectivement, dans le domaine militaire. Donc, depuis longtemps, les drones sont utilisés pour surveiller, photographier.
Ah bah les premiers drones, de toute façon, étaient utilisés dans cette optique-là. C'était les militaires de l'armée française, comme tu disais tout à l'heure. C'était les premières applications.
Bien sûr. Et je peux aussi relever que Daniel Suarez, qui avait écrit Kill Decision, avait proposé un roman dans lequel les drones étaient utilisés pour tuer. Donc sa vision d'aujourd'hui est tout à fait réaliste, puisque maintenant, aujourd'hui, avec les menaces terroristes...
Ouais, ça me fait penser à l'épisode de Black Mirror, sauf que c'est pas avec les drones, mais c'est avec les petits chiens robotisés, tu sais, les petits androïdes à 4 pattes.
C'est une forme de drone, hein, c'est juste pas volant.
C'est un drone, c'est ça, c'est complètement
robot,
autonome,
c'est
sauf que ça vole
autonome,
pas.
Ouais. La grosse difficulté avec un drone, c'est qu'ils sont programmés pour, par exemple, déterminer de tuer une cible... Et personne ne peut être condamné dans ces cas-là, puisque effectivement, si tu as un drone qui se met à tuer quelqu'un, tu ne sauras pas forcément qui est le propriétaire derrière, pourquoi il l'a fait, est-ce qu'il l'a fait en étant programmé, ou est-ce que c'est une erreur logicielle ?
Toute façon, c'est que ce soit la décision du drone qui effectivement a une intelligence embarquée qui décide de tuer quelqu'un ou pas, ou la décision arbitraire de quelqu'un qui agit sur l'ordre du président des États-Unis au hasard, hein, juste au hasard comme ça, ça revient au même, on court-circuite le judiciaire effectivement.
Enfin,
donc,
à partir du moment où tu équipes ton drone toi, d'une arme à feu ou de n'importe quoi d'autre qui est fait pour tuer, tu te dis non, c'était pas pour faire de la course ou pour prêter à ton petit cousin de 4 ans pour qu'il s'entraîne à voler. Tu te dis que derrière, dès le début, il y a quand même intention de nuire quelque part.
Bon, heureusement, il y a quand même d'autres utilisations sympas.
Oui, par exemple, dans le domaine agricole, les drones ont trouvé leur place, effectivement, puisqu'ils nous permettent. Un survol des parcelles, ils permettent aussi de détecter l'usage des pesticides, permettent aussi de faire un contrôle visuel sur les plantations, permettent de réaliser et de vérifier si effectivement les plantations n'ont pas de parasites particuliers par rapport à tout ça. C'est vraiment intéressant. Par exemple, je vais citer Carbon Bee.
Ouais, petit coucou à Carbon Bee.
Qui sont dans notre région et qui font ce genre d'activité. Effectivement, dans le domaine industriel, vous avez tous les drones qui permettent la surveillance des infrastructures et qui permettent ce contrôle.
Aller vérifier sous les ponts, par exemple, plutôt que d'avoir des gens qui s'arnachent et qui descendent.
Oui, alors justement, il y a les avantages, il y a le côté écologique, parce qu'un drone, c'est quand même beaucoup moins polluant qu'un vol d'hélicoptère.
C'est sûr.
Et puis aussi, il y a le côté économique, parce que finalement, lorsque tu veux faire ton propre drone, il est possible de le faire... par toi-même grâce à des cartes Arduino qui sont disponibles et avec lesquelles en fait tu peux concevoir ton drone. Donc effectivement, pour rappel, les cartes Arduino sont des cartes avec équipées de microcontrôleurs et qui sont
programmables avec
tout
un tas de voilà, donc c'est des cartes ouvertes et puis il y a plein de logiciels libres aussi qui sont destinés à la conduite des drones effectivement qu'on peut utiliser.
Alors effectivement, il y a certains dangers sur le hacking des drones, donc il y a une prise de contrôle à distance possible. Donc effectivement, on pourrait s'imaginer que tous les drones soient pris sous contrôle de quelqu'un à distance, qui pourrait par exemple leur programmer à tous de tomber.
Bah, c'est des ordinateurs. Hein.
Oui, voilà. Ça peut être aussi vecteur de virus. On peut s'imaginer que le drone se rapprochant de sources... pourrait injecter des codes malveillants pour pouvoir pirater des
drones. Ouais, en se connectant par le Wi-Fi ou même en prenant une clé USB.
Oui, aussi.
Lol.
Les petits drones avec ses petites papettes.
Ouais.
Par exemple, il y a eu aussi Icarus One qui a permis de faire des tags à l'encontre de Trump aux États-Unis. Donc, c'était sympa. Un drone qui faisait des tags sur des murs géants. Donc voilà. Et puis dans le futur, alors effectivement, le drone a vraiment son utilité, puisque en Afrique, par exemple, on sait qu'il y a des zones difficiles d'accès et ça va être un vecteur qui permettra de relier les gens, notamment lorsqu'ils ont des besoins de médicaments, de pouvoir faire des livraisons dans la demi-heure, quoi. C'est vraiment intéressant par rapport à ça, puisque ça a tout à fait son utilité et pour nous.
Et quand il n'y a pas de route ou quand il y a des glissements de terrain aussi, en cas de problème humanitaire, par exemple, ouais, c'est intéressant.
Ouais, ou comme effectivement, comme on disait, on rigolait tous avec le transport Amazon par drone.
Moi j'attends juste la livraison de pizza par drone. Ça c'est le futur. Ça
te plairait, je
pense. Putain. Ah ouais, je couche plus de chez moi après.
Bref, voilà, effectivement, vous pourrez aussi trouver plein d'autres applications comme faire du light painting, remplacer des feux d'artifice avec les lumières des drones. Plein de choses, on a plein de liens sur le site de AAA.fr pour retrouver sur ce sujet qui nous a beaucoup passionnés. Et puis voilà, donc nous allons faire une petite pause musicale avant de nous retrouver pour l'agenda et astrologique. Thank you. pour tous ceux qui ont reconnu la musique.
C'est beau.
C'est beau. C'est le générique de No Life, interprété simplement sur une note de piano. Et voilà, je pouvais pas m'empêcher de vous le rappeler que No Life nous manque déjà.
Mais No Life n'aura jamais aussi bien porté son nom, du coup.
Life. Bref, voilà, c'était mon petit moment à moi. J'avais besoin de leur dire qu'on les aimait beaucoup et que...
Et gros cœur avec les doigts.
Ouais, gros cœur, on vous adore et on vous oublie pas. Et nous allons passer tout de suite à l'agenda.
Alors, atelier adulte, réalisez votre kirigami au découpe laser. Donc, découverte de la fabrication numérique, ça va être 8 Fab Lab. Donc, pour les débutants expérimentés, fabriquez et repartez avec votre objet.
Ah,
à l'aide
sympa,
d'un
ça.
Animateur, vous découvrirez les processus de fabrication numérique. Et donc là, alors, c'est à partir de 16 ans. Et le kirigami, c'est l'art japonais de découper du papier, de kiri coupé et gami, papier. C'est origami, c'est plié, et kirigami, c'est... Et donc voilà, plier votre environnement, votre maison, et tout plein de trucs.
Ah donc ce sera le mercredi 18 avril de 18h30 à 20h30 au Fab Lab 8 cours Commer à Créer.
Voilà, c'est 25 euros sur inscription.
Formation
DPSA WordPress. Ouais, donc cette fois-ci, alors c'est à l'atelier à 10, donc 3 places du marché. C'est jeudi 19 avril de 18h à 20h. Et c'est une formation donc sur le CMS WordPress.
Et soirée libre G3L.
Oui, comme d'habitude, le 20 avril à 19h30 à MJC Châteauvert.
Et les rencontres de la French Tech in the Alps, Valence Roman 2.
Oui, c'est la deuxième. Ah bah oui, attends. Et donc, un temps de conférences et d'échanges et témoignages d'entreprises locales qui innovent.
Ça se passe au Clévos.
Ouais, c'est donc 390 route de Marmont à Étoile-sur-Rhône. Et c'est le 20 avril aussi.
Très bien. Alors, nous allons frotter notre boule de cristal et regarder ce qu'il y a. Regardez.
Gamer, l'ordinateur gagne aux échecs ou aux jeux de Go face aux grands champions. Mais est-il capable d'être fier d'avoir gagné ou triste d'avoir perdu? Sur ce point, l'homme sera toujours le meilleur.
Sysadmin, espionner les paquets égyptiens, c'est des paysans.
Des paysans. Oh. Technophile, as-tu trouvé la paix intérieure?
Oui, la paix. Le point d'accès interne. Demo Maker, here we are, je suis Thompsoniste, je suis immortel.
Codeur,
ohé, ohé, branche de dev abandonnée.
Amigaïste, pas de podcast Amiga Impact ce dimanche? C'est un jour à sortir la vampire, alors s'il n'y a pas d'AI.
Waouh!
S'il n'y a pas d'AI.
S'il n'y a pas d'AI.
Ok.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, amis les auditeurs. À très bientôt, Matt. À très bientôt, Mimiman.
À bientôt, merci, bye.